En dépit du succès remporté devant l'Assemblée nationale le 24 mai, Jacques Chaban-Delmas est dès lors condamné. 6 semaines vont s'écouler avant qu'il ne soit prié de se retirer. Le 5 juillet, le président Pompidou, décidément enclin à surprendre ses amis et ses détracteurs, porte son choix sur un homme peu connu, d'une opinion qui découvre que Pierre Messmer fut ministre pendant 10 ans.
Mon cher Pierre, je souhaite au nouveau Premier ministre et au nouveau gouvernement tout le succès nécessaire pour tous les Français.
Merci.
Et quant à moi, je rentre chez moi, à Bordeaux, où m'attend beaucoup de travail pour ma ville et pour tout le Sud-Ouest.
Monsieur Messmer forme son ministère et s'adresse aux Français.
C'est le secrétaire général de l'Élysée qui, conformément aux traditions, vous donnera dans un instant lecture de la liste des membres du gouvernement. Je me contenterai de quelques commentaires. Vous pouvez constater que cette liste vous sera communiquée moins de 30 heures à partir du moment où le président de la République m'a chargé de former le gouvernement en me nommant Premier ministre.
Les préceptes que le gouvernement avait paru momentanément oublier sont repris avec ardeur. Il faut resserrer les rangs du compagnonnage gaullien et restaurer la fidélité ébranlée de ses électeurs. Des hommes de confiance sont placés au point stratégique. Monsieur Edgar Faure reçoit la charge des affaires sociales.
Monsieur Pierre Messmer et le président Georges Pompidou ont pensé qu'étant donné que je m'intéressais beaucoup aux problèmes sociaux, notamment depuis quelques années, j'ai consacré un certain nombre d'études. Ils pouvaient faire appel à moi pour un ministère des Affaires sociales. J'ai considéré que c'était un honneur. Naturellement, un honneur à sa contrepartie, c'est la difficulté de la tâche.
Aux États-Unis, la convention démocrate bat son plein à Miami. Un choix hasardeux désigne le sénateur McGovern comme candidat à la présidence.
So tonight, I accept your nomination with a full and grateful heart. This afternoon, I crossed the wide Missouri to recommend a running mate of wide vision and deep compassion, Senator Tom Eagleton. I'm proud to have him at my side, and I'm proud to have been introduced a moment ago by one of the most eloquent and courageous voices in this land, Senator Ted Kennedy.
C'est un mois plus tard, toujours à Miami, que le président Nixon recevra l'investiture sans surprise du Parti républicain. Ce choix-là sera le bon.
4 years ago, standing in this very place, I proudly accepted your nomination for President of the United States. And with your help and with the votes of millions of Americans, we won a great victory in 1968. Tonight, I again proudly accept your nomination for President of the United States.
En Tchécoslovaquie, une série de procès politiques fait rebondir la querelle engagée depuis plusieurs mois entre socialistes et communistes. 46 personnes, en effet, y ont été condamnées en moins d'un mois. Par ailleurs, l'amitié russo-égyptienne semble sérieusement compromise lorsque M. Sadat annonce le renvoi des conseillers militaires soviétiques. Incarcéré depuis le 23 novembre 1971, Gérard Nicou est libéré le 6 juillet. Il reste le plus ardent défenseur du petit commerçant.
Vous savez, il y a longtemps que j'ai acquis une philosophie en prison. Pour moi, j'étais parti de 14 mois. À partir du moment où on m'a fait sortir aujourd'hui, eh bien, c'est parfait. Personnellement, je ne connais pas le nouveau Premier ministre. J'espère qu'il sera plus compréhensif que le dernier. Dans le cas contraire, eh bien, disons que peut-être la prison, ce n'est qu'à nous revoir.
La grève générale des dockers anglais entrave sérieusement le ravitaillement du Royaume-Uni. Au Maroc, le général Oufkir met soudainement fin à ses jours en apprenant le nouvel échec du complot visant à l'assassinat du roi Hassan.
Il a considéré qu'il pouvait faire le crime parfait. À sa place, j'aurais quand même laissé un doute en supposant que ça ne réussirait pas. Donc la première erreur, et il avait raison d'après les ordinateurs, nous étions celle-là sur le milliard. Pas de chance. Tant pis pour lui. Tant mieux pour nous.
Les 17e Jeux Olympiques s'ouvrent à Munich en l'absence de l'équipe rhodésienne exclue de la compétition afin de prévenir le boycottage annoncé par certains États africains.
Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
Malgré toutes les précautions, un commando palestinien s'empare des délégués israéliens et menace de les exécuter. En dépit des négociations, le dénouement sera sanglant. Israël crie vengeance et demande l'arrêt pur et simple des Jeux. Oubliant pour un temps ce drame affreux, les délégués américains, russes et allemands ne pensent plus qu'à donner le meilleur d'eux-mêmes. La France, quant à elle, n'obtiendra qu'un classement médiocre. Monsieur Joseph Comiti s'y est résigné depuis longtemps.
Les résultats de Munich ne sont finalement que le reflet fidèle de le niveau qu'a atteint le sport en France. Ils sont le reflet du nombre de pratiquants, des disciplines qui ont la faveur des Français et du degré de volonté qu'ont les Français à vouloir pratiquer le sport de haute compétition.
Du sensationnel dans l'affaire lyonnaise de proxénétisme dévoilée depuis quelques semaines. Plusieurs policiers sont inculpés et écroués. Le député Édouard Charest, accusé, s'explique devant la presse.
Je ne sais pas si ça a une origine politique ou non, mais ce dont je suis certain, c'est une véritable machination qui est destinée à abattre un élu depuis 22 ans dans son quartier et qui semble, jusqu'à ce jour, je suis modeste, avoir une situation très, très forte. Mon fils aîné est pharmacien biologiste et il faisait des analyses, des prélèvements pour des personnes qui travaillaient dans certains établissements incriminés de Lyon. Mais c'est tout ce que je puis dire.
Septembre. Monsieur Alain Perfit, ancien ministre, est élu au poste de secrétaire général de l'UDR en remplacement de Monsieur Tomasini.
Serait tout à fait malséant de ma part de décliner une mission qui m'est confiée par mon mouvement, le mouvement auquel j'appartiens depuis mes premiers pas dans la vie publique en 1958. Et il serait même peu honorable de reculer devant une tâche qui sera dure et périlleuse à la veille des élections, ces élections qui seront naturellement difficiles.
Divers journaux publient les premières révélations de Gabriel Aranda, ancien membre du cabinet de Albin Chalandon. Monsieur Aranda sera inculpé le 18 de vol de documents.
Ce que je veux signaler aussi, bien sûr, c'est qu'il ne s'agit nullement d'une opération dirigée contre le gouvernement ni contre un parti politique quelconque. Simplement, c'est un honnête homme qui a voulu rendre, voire puni, des auteurs de certains scandales.
Le 16, Israël lance ses troupes dans le sud du Liban. Elles y restent 36 heures. 10 jours plus tard, messieurs Le Canuet et Servan Schreiber tiennent une conférence de presse où ils annoncent la présentation d'un candidat du mouvement réformateur dans chaque circonscription.
Si un pacte de législature est acquis, si nos réformes sont incluses, nous ne le remettrons pas en cause pendant toute la durée de la législature. Il n'y aura de notre part ni fluctuation, ni revirement. Nous sommes pour le changement. Et d'une manière absolue et sans défaillance. Mais nous sommes tout autant pour la stabilité, car la réforme, plus que toute autre politique, exige la continuité et l'effort. Puis-je résumer pour être clair, plus encore si c'est nécessaire, notre position ? Jamais de ralliement dans l'abandon, jamais d'obstruction systématique, mais présence pour une politique de réforme, et seulement dans ce cas, telle sera notre conduite. Elle offre, je crois, aux Français, déçus par la politique gouvernementale actuelle, la seule voie du changement.
La sécurité de l'emploi, le développement de l'emploi, et nous allons plus loin, la sécurité économique que permettra cette transformation de l'utilisation de l'argent public, signifie pour nous une mesure très précise, c'est une garantie, un revenu minimum garanti par foyer de 1200 francs par mois.
À 6 mois de l'échéance électorale, le combat semble avoir changé d'âme, mais l'espoir est dans tous les camps. Le 28, les locaux de l'immeuble Publicis sont la proie des flammes. Monsieur Bleustein-Blanchet accuse.
Je calcule, moi, qui suis arrivé au moins un quart d'heure après. J'ai attendu sur le trottoir devant la rue Vernet, je voyais les flammes tout d'un coup. Par la cheminée d'en haut, évidemment, ça, il y a eu des flammes importantes. J'attendais toujours, ils sont arrivés avec une première voiture, une première lance de l'autre côté, et pas d'eau.
Le 2 octobre, Édouard Guirec, premier secrétaire du Parti ouvrier polonais, est accueilli avec les honneurs réservés au chef d'État. Il est venu étudier les divers aspects de la coopération économique et approfondir l'ensemble des relations entre Varsovie et Paris.
Je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous avec des paroles d'amitié et de vous transmettre les meilleures salutations du peuple polonais. Je suis venu en France sur l'aimable invitation du président de la République française, M. Georges Pompidou. Nous désirons tracer en commun un programme visant à approfondir la coopération entre la Pologne et la France. Nous voulons également examiner ensemble les problèmes internationaux qui intéressent nos deux pays.
Le 11, les bâtiments de la délégation française de Hanoï sont détruits au cours d'un bombardement. Le délégué général, M. Susini, meurt quelques jours plus tard de ses blessures. Néanmoins, les pourparlers de paix semblent en bonne voie. Madame Bin espère l'issue prochaine des combats.
Les conditions sont réunies pour un règlement politique du problème sud-vietnamien. Il suffit que les États-Unis se décident de mettre fin à sa politique vietnamienne, de vietnamisation de la guerre. Je dis que les conditions sont réunies, mais il y a une condition essentielle, c'est l'attitude des États-Unis.
Monsieur Kissinger se rend à Saïgon le 18 pour exposer les dispositions arrêtées en vue d'un cessez-le-feu. Le général Thieu se montre modérément pessimiste.
Moi, je tiens à vous dire que le Sud-Vietnam, les 17 millions et demi de Sud-Vietnamiens, non pas seulement le président Thieu, n'accepteront jamais une paix qui offre le Sud-Vietnam aux communistes.
Le jeudi 19 s'ouvre la conférence au sommet de la communauté élargie. Seront abordés les progrès de l'union politique et les problèmes des relations extérieures. Dans la salle de réunion de l'ancien hôtel Majestic, M. Pompidou ouvre la conférence.
Au nom de la France, qu'il me soit permis d'abord de souhaiter la bienvenue à vous tous, messieurs les chefs de gouvernement. Et personne ne s'étonnera que j'ai une pensée particulière pour les premiers ministres du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni qui assistent pour la première fois à cette conférence de la communauté élargie. Leur présence à côté des 6 membres fondateurs, donne à notre réunion un caractère exceptionnel et par conséquent nous impose des obligations. Nous nous devons, sous peine de décevoir les opinions publiques, prendre un certain nombre de décisions précises et aboutir à un certain nombre de résultats concrets dans le développement de la construction européenne.
Monsieur Bichevel lui succède en tant que représentant du pays qui préside le Conseil des ministres de la Communauté.
Monsieur le Président, les conférences au sommet, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, doivent être les jalons sur le chemin de l'unification de l'Europe. Elles nous forcent à faire le point à mesurer ce qui nous reste à faire avant d'arriver au but, à préciser nos méthodes de travail.
En ce mois de novembre, la redoutable échéance du renouvellement des députés élus en juin 68 sous le nom du général de Gaulle et sous l'égide de son successeur est proche. Marcel Jeannet, ancien ministre de De Gaulle, se rallie au mouvement réformateur de Jean Le Canuet.
Ce n'est pas en regardant le passé qu'il faut mener une politique, c'est en regardant l'avenir. J'estime qu'il y a un certain nombre de réformes à faire en France, qu'il faut changer la politique. Sur quel point, mais j'ai eu l'occasion de m'en expliquer dans divers articles, certains étaient techniques et d'autres politiques. J'ai constaté que sur des points importants, la politique européenne, la politique régionale, l'attitude de l'État en face des grandes affaires, mes positions étaient assez proches de celles du mouvement réformateur. Alors, très naturellement, je me suis dit que l'action politique que je voulais mener, pour être efficace, devait être menée avec ceux qui pensaient à peu près comme moi.
Le 7 novembre, le Front National, mouvement tendant à l'unification des organisations et personnalités de droite, fait sa première réunion publique à la Mutualité. Devant 4000 personnes, son président, Jean-Marie Le Pen, prend la parole.
Une nouvelle grande aventure attend une fois encore les hommes au détour de l'histoire. Nous prétendons, nous, l'aborder en nous inspirant des principes qui ont permis la naissance et la survie de la civilisation. Ce courant vigilant qui la protège et la défend depuis qu'elle est née du début des mondes, c'est celui de la droite. Oui, mesdames et messieurs, le voilà donc lâché. Le mot banni, le mot honni, le mot vilipendé, la droite. Et le malheur de notre pays vient très précisément de l'escroquerie morale et politique qui se perpétue depuis plus de 15 ans dans ce pays et qui fait qu'avec la confiance et les voix des électeurs de droite, on fait la politique de la gauche, avec la confiance et les voix des électeurs nationaux, on fait une politique de complicité ou pour le moins de complaisance à l'égard du Parti communiste et de ses alliés.
Le jour même, aux États-Unis, le président Nixon est triomphalement réélu. Bientôt, les élections allemandes pour le renouvellement du Bundestag donnent la victoire à la coalition socialiste libérale et reconduisent M. Brandt dans ses fonctions de chancelier. Depuis longtemps, les sénateurs attendaient la reprise du dialogue avec le Premier ministre. Cette séance du 7 novembre devait, à leurs yeux, renouer avec une tradition longtemps interrompue. Après avoir déploré que le gouvernement n'ait pas jugé utile d'entendre le Sénat se prononcer par un vote, M. Le Canuet poursuit.
Vous voulez, c'est votre droit à la continuation. Nous voulons le changement. Mais nous croyons que placer au centre de la vie politique, au point de convergence et d'élan de l'innovation politique, le pays tranchera. Dans sa sagesse et avec le sursaut dont il a fait preuve tant de fois dans son histoire,
c'est l'ambiguïté des institutions politiques que déplore M. Marcillacy.
Je pense que l'avenir de la France, il est non pas dans le conservatisme qui sévit actuellement, mais dans un socialisme libéral.
Jacques Duclos, président du groupe communiste, critique vivement la politique actuelle en lui opposant les vertus du programme commun de la gauche unie.
Pour ce qui est de la lutte contre l'inflation, dont vous vous faites le champion, vous avez déclaré vouloir renoncer à toute nouvelle augmentation des tarifs publics au cours des 6 prochains mois. Vous avez fait cette promesse le 3 octobre dernier, ce qui signifie qu'elle est valable jusqu'au 3 avril 1973, c'est-à-dire jusqu'après les élections. Et à la suite de cela, si vous étiez maintenu en place, les naïfs qui vous auraient suivi serait obligé de payer chèrement la confiance qu'il vous aurait renouvelée. Il en ira autrement si la gauche l'emporte aux prochaines élections et si l'élection d'une majorité de gauche contraint le président de la République à désigner un premier ministre représentatif de la gauche victorieuse, car l'histoire de notre pays a déjà administré la preuve qu'un président de la République, quel qu'il soit, ne peut pas sans risque ne pas se soumettre à la volonté exprimée par le suffrage universel.
Quant au Premier ministre, Pierre Messmer, il s'en tiendra à la lecture de la réponse aux questions écrites qui lui avaient été posées.
Pour répondre à une question qui m'a été posée sur ma conception des rapports du président de la République et du gouvernement, par conséquent du Premier ministre, je dirais, le président de la République, c'est, je cite deux mots qui ne sont pas de moi, mais de lui, l'impulsion et la continuité. Le gouvernement, c'est, et je ne cite pas le président de la République, mais les deux mots sont de moi, le gouvernement, c'est la prévision et l'action. Quant au rapport entre le gouvernement et le Parlement, ils sont organisés conformément à la Constitution et mon vœu est qu'ils soient efficaces et constructifs.
Le président Pompidou entreprend sa troisième visite en Afrique. À cette occasion, il déclare que la France renonce à recouvrer une dette de 1 milliard de francs contractée par les États africains. À Lomé, ignorant ce geste généreux, M. Ayedema n'en présente pas moins des critiques contre la zone française.
À l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de deux anciens francs français pour un franc CFA ne correspond pas à la réalité.
L'indépendance, la souveraineté que peuvent réclamer les autres, elle a ses limites dans la garantie que donne l'État français. L'une est liée à l'autre. Et il est bien évident, Monsieur le Président, que la nécessité de cette solidarité et la nécessité du lien entre la liberté de chacun et la garantie, vous venez de la donner vous-même. Car à la suite de vos paroles, il est évident que le franc CFA demain s'effondrerait s'il n'avait pas la garantie de l'État français.
En France, le 1er décembre, c'est l'entente et la satisfaction qui se manifestent avec éclat lors du rassemblement pour le soutien du programme commun de la gauche. Messieurs Marchais et Mitran se retrouvent sur l'estrade du Palais des Sports.
Je veux dire franchement comment le Parti communiste français voit cette question de l'union de la gauche. Pour nous, l'union, c'est la coopération dans le respect de la personnalité des partenaires pour mettre en œuvre une politique conforme aux intérêts des travailleurs, du peuple et de la nation. L'union, ce n'est pas la fusion en un seul parti. Communistes, socialistes et radicaux n'ont pas la même conception du monde, la même organisation de partis, les mêmes jugements sur une série de questions. Nous n'avons pas besoin d'un monopole. Nous n'avons pas besoin d'un maître de l'argent, 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 l'argent. Les nouveaux seigneurs, les maîtres de l'armement, les maîtres de l'ordinateur, les maîtres du produit pharmaceutique, ce qu'ils fabriquent, les maîtres de l'électricité, des télécommunications, les maîtres du fer, de l'acier, les maîtres de toutes les richesses du sol et du sous-sol, les maîtres de l'espace, les maîtres de l'information, les maîtres des ondes hertziennes,
qui vous porte, l'image et la musique.
Les premières mesures gouvernementales sont prises pour lutter contre la hausse des prix. Le Premier ministre présente son plan.
La première catégorie de mesures consiste à diminuer la taxe à la valeur ajoutée sur un certain nombre de produits, cette TVA dont les Français ont tous entendu parler. Le taux normal de la TVA est de 23%, il s'applique à des produits industriels. Ce taux sera ramené à 20% à partir du 1er janvier.
Le ministre des Finances lance à son tour un appel pour la baisse de la TVA.
Je suis persuadé, personnellement, que vous mesurez l'importance de l'enjeu vis-à-vis de l'opinion publique de la répercussion intégrale dans vos prix de la baisse de l'impôt. C'est le motif pour lequel nous avons choisi de vous faire confiance. Et c'est pourquoi, au moment où vous allez appliquer cette baisse, Madame et Monsieur, je compte sur vous.
À cette occasion, Monsieur Poher s'étonne de l'absence de Monsieur Giscard d'Estaing au dernier débat budgétaire du Sénat.
Il est de mon devoir de m'étonner, du haut de cette tribune, de l'absence inadmissible de Monsieur Giscard d'Estaing. Le ministre de l'Économie et des Finances ne peut ignorer que le vote du budget de l'État est la prérogative fondamentale des assemblées démocratiques.
Le gouvernement met au mieux en valeur les réalisations techniques et le président Pompidou invite le roi Baudouin à l'inauguration de l'autoroute Paris-Bruxelles.
Dans le grand corps que représente l'Europe de demain, les autoroutes vont nourrir de plus en plus l'économie de chacun des États qu'elles traversent. Elles apparaissent indispensables là où se forme un marché unique, où se créent des entreprises d'une taille nouvelle, où les ports s'équipent pour des trafics plus intenses. Ne pas disposer de ces voies lancées au travers des frontières serait actuellement un inconvénient majeur.
La fin de l'année approche. Le 25 décembre, le pape Paul VI lance son traditionnel message de Noël.
Joyeux Noël dans la paix du Christ. Cinese, Guno Shendan, è di espressione vietnamita, Chuk Mung Dian Sinh.
Quelques jours plus tard, c'est au tour de Georges Pompidou de présenter à la France ses vœux de nouvel an.
Puisse l'année nouvelle être pour la France l'année de la sagesse. Puisse-t-elle, Français, Françaises, être pour chacun et chacune d'entre vous une année de satisfaction personnelle, familiale, professionnelle. La sécurité générale ne peut protéger personne contre un accident, une maladie, un malheur imprévu. Mais l'insécurité générale comporte de terribles risques pour tout le monde.